C'est qui est précieux.
Jacob Vandermal, bonjour. Alors, vous êtes à Paris avec Michel Andemay, pas pour faire le touriste, ni même pour faire du shopping, mais dans le cadre de la présentation au public français et parisien de Cold Blood. C'est jusqu'au 26 janvier à la Scala. Comment choisit-on une salle?
Là, c'est plutôt nous qui avons eu la chance que la salle nous ait choisi. C'est un nouveau théâtre qui a ouvert et qui a une perspective un peu différente, c'est-à-dire qu'ils veulent tenir des spectacles sur la longueur. Et donc, on a joué un mois Kiss and Cry et on doit terminer d'ici une semaine un mois de Cold Blood. Donc, c'est vraiment, on a vraiment le temps de s'installer dans un théâtre et de voir un public qui a vu un spectacle et revient en suivant.
C'est vrai qu'en fait, la partie, je vais dire, surprise est un peu tombée, mais d'un autre côté, le public reste subjugué quand même.
Ben il faut leur demander, mais en tout cas, c'est un plaisir de jouer ça parce que c'est une équipe avec qui on tourne maintenant depuis
Création
8
2015,
ans.
à peu près, non?
Cold Blood, c'était en
Ouais.
2015.
Coproduit par Charleroi Danse.
Absolument, absolument. Et le Manège de Mons.
Kiss and Cry, hein?
Kiss and Cry tourne déjà depuis 8 ans. On a la chance d'avoir fait à peu près 5 représentations des deux spectacles en 9 langues différentes. Donc on est une équipe, on peut se remplacer les uns les autres. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est Harry Cleven qui joue, qui joue, qui est un ami réalisateur,
Mon ange, ouais.
mon ange, qui
Hein?
tient, qui tient, qui tient le rôle à Paris. Et la semaine prochaine, ce sera moi.
Changement. Alors, la vie, l'amour, la mort, il reste le troisième volet, la vie, non?
Il reste la vie, oui, tout à fait.
C'est prévu une écriture d'un troisième spectacle?
On a fait un troisième spectacle qui s'appelle La Mort, qu'on a déjà joué à Bruxelles et qui se jouera l'année prochaine à Paris, à la Scala, dans la même salle. La Mort, c'est un seul en scène de Michel Andemay, qu'elle m'a demandé de mettre en scène. Et ça raconte l'étrange expérience qu'elle a fait à un moment donné qu'on était à Toronto, ça s'appelle Near Death Experience, c'est-à-dire expérience proche de la mort et au retour, voilà, donc c'est un spectacle dansé où il y a aussi des caméras, mais de façon très différente des deux premiers spectacles, parce que c'est des caméras qui permettent de faire à elles seules des polyphonies.
Alors Paris, ben c'est aussi My French Film Festival, festival en ligne du 18 janvier au 18 février, et vous faites partie du jury des cinéastes. Les films sont accessibles sur des plateformes multiples, même en VR. C'est inespéré pour des réalisateurs. Ça leur donne quoi? Une deuxième, troisième vie pour les films, hein?
Oui, c'est un des moyens qu'un film de vivre longtemps et un peu partout, c'est à travers les plateformes. C'est souvent des films qui ont eu une carrière plus brève sur les écrans et que qu'Unifrance encourage à exister sur des plateformes dans le monde entier. Donc, ils font un super travail de soutien d'un jeune cinéma français. C'est souvent des premiers et des deuxièmes
Et des
films.
films phares, style Toto, non? Toto n'avait pas été présenté dans le cadre de
Oui,
aussi.
mais pas dans le cadre de cette
C'est
sélection
ça.
aussi, quoi, oui.
Et alors, bon, occasion lors de ces festivités initiées par Unifrance, c'est de retrouver des gens comme un certain Philippe Godeau. J'ai vu hier, vous aviez eu l'occasion de papoter. Il faut quand même dire, c'est le distributeur de Toto, coproducteur du 8e jour et de Mister Nobody. C'est fabuleux quand même des rencontres pareilles, non? De se
Oui, il
retrouver.
était là par hasard, mais je pense qu'ici tout le monde est un peu ici, pas par hasard, parce que c'est aussi un grand événement qu'Unifrance organise pour mélanger, enfin pour faire se rencontrer des distributeurs de plein de pays, des réalisateurs, des producteurs, dans le but que les films français circulent.
Alors, bon, on parle des plateformes, donc c'est maintenant l'évolution. Est-ce que c'est maintenant, quand on conçoit un film, il faut envisager un autre support et un autre format?
Moi-même, j'y pense jamais. Je pense, quand je fais un film, je pense jamais à ni qui va le voir, ni où il sera vu.
Ah ouais.
J'essaie de faire un film qui me plaît déjà à moi, et puis je me dis, et puis qui plaît aux gens que je connais, parce que le public, je ne sais pas qui c'est. Donc, et c'est un peu par hasard que, quand un film marche en salle, je ne sais jamais pourquoi il marche, et quand il ne marche pas, je ne sais jamais pourquoi il ne marche pas. Je suis toujours heureux quand il marche. Mais les plateformes, c'est aussi quelque chose de plus en plus courant, parce qu'on regarde de plus en plus les films chez soi. Et y a la télévision classique qui est programmée, où on a souvent, je trouve, des bonnes surprises, parce que c'est pas une recherche, c'est une proposition de quelqu'un qui programme des choses. Mais il y a aussi l'énorme catalogue de toutes les plateformes qui existent et qui sont de plus en plus nombreuses, où on voit, voilà, où on voit de tout, des films, des séries. Mais c'est une manière de voyager pour des films qui est effectivement légère, parce que ça va directement dans les foyers.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas une frustration pour le metteur en scène, mais aussi pour le chef-op, de se retrouver parfois, il y a une telle recherche sur le terrain au moment de la mise en scène, et le voir sur un iPhone, ça doit quand même être un petit peu frustrant, non?
Moi, j'imagine jamais qu'on le regarde sur un iPhone. Enfin, je connais peu de gens qui le soir regardent un film sur leur iPhone, sauf s'ils sont peut-être dans un train, mais... non, en général, je regarde plus de films sur ma télévision qu'au cinéma, et donc effectivement, c'est très différent. La sensation est différente, mais le choix des films accessibles est très grand.
Alors, bon, vous avez terminé votre écriture là ?
Non.
Pas encore, en plein dedans ? Thomas Hunzik va participer aussi.
Oui, on l'écrit à deux.
Vous avez...
Non, j'ai même pas encore... C'est pour l'instant, c'est un peu comme le paquet de cailloux du facteur Cheval avant qu'il construise son palais. Ça pourrait être plein de choses différentes. Mais pour l'instant, ça ressemble à un tas de cailloux. Bon.
Et donc, pas de planning en vue ou quoi que ce soit?
C'est toujours beaucoup plus long que je ne pense.
Quoi, le temps d'écriture, de la méditation, des rencontres.
Le temps d'écriture est toujours plus long que je pense, parce que c'est le moment le plus important. C'est le moment où on a le temps, justement. Une fois qu'on arrive au tournage, on a moins le temps. Et où les choses apparaissent petit à petit. Et c'est... Souvent, l'écriture, c'est un peu comme cette phrase de ce photographe finlandais dont je ne sais pas prononcer le nom, mais il disait vous ne prenez pas une photo, la photo se donne à vous. Et le scénario, c'est souvent un peu la même chose, c'est-à-dire à force d'y travailler, de rester longtemps dedans, la chose qui vient est surprenante, parce que c'est pas celle qu'on... C'est une espèce de perte de contrôle qui est intéressante. C'est le moment de cette perte de contrôle, c'est le moment qui est magique pour quelqu'un qui écrit.
Quel est le modus operandi avec Thomas?
Avec Thomas, on passe du temps ensemble, on se lance des idées. L'avantage, c'est que lui, il aime bien mes idées, moi, j'aime bien les siennes. Donc, toutes les idées que j'aurais jetées, parce que c'est les miennes, ben,
on les garde. Sur le tapis.
Il les garde, et les idées que lui n'aurait pas gardées, moi, je les garde. Et puis, voilà, petit à petit, on a écrit le tout Nouveau Testament de cette façon-là, en faisant des séances. Là, on faisait ça tous les après-midi pendant tout un été pour se lancer les idées. Puis après, on assemble, on écrit, on voit les trous, on voit que ça ne marche pas. 90% de la vie d'un scénariste, c'est d'être un scénariste incompétent. C'est-à-dire, c'est d'être un scénariste qui est en train de travailler sur un scénario qui ne marche pas encore. Hein. Et la compétence, c'est juste les 10 derniers pourcents. Au dernier moment, quand hop, ça se cristallise et tiens, ça marche, voilà, maintenant ça fonctionne, sans qu'on sache pourquoi. Enfin, en tout cas, sans que je sache pourquoi.
Alors, le samedi 2 février, c'est la 9e cérémonie des Magritte. Vous avez été le parrain lors de la création, vous êtes membre de l'Académie André Delvaux. Grande fête du cinéma belge. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous sentez ce changement de perception à l'égard de notre cinéma?
Je ne voyage pas beaucoup, je suis beaucoup à la maison. le changement de perception de notre cinéma. J'ai l'impression qu'il, en tout cas qu'il a une visibilité plus grande. Le but des Magritte, c'est pas d'élire le meilleur film ou le meilleur acteur ou actrice. C'est le but, c'est quelque part faire la somme de tout ce qui a été fait pendant une année et de rappeler la somme de toutes ces choses qui ont été faites. Et je pense qu'une fois par an, c'est bien parce que ça met en lumière une activité qui existe chez nous d'acteurs, d'actrices, de monteurs, de cinéma, de chef-op, de scénaristes, de producteurs, de réalisateurs. Et oui, quand on fait la somme de ce qui a été fait dans l'année, on se dit, ben, c'est pas mal quand
C'est
même.
pas mal. Ouais. Et c'est vrai que finalement, on ne se s'autogratule pas, c'est plus quand même. Pourtant, il faudrait quand même montrer que nous aussi, on a un savoir-faire et qu'il faudrait le faire comprendre et montrer aux autres,
Oh,
peut-être, non?
je pense pas que c'est nécessaire de. Je pense que ça se fait tout seul, je pense. Ça se fait tout seul.
Dernière question qui concerne Netflix, puisque maintenant, bon, quand on voit des Roma, Venise a été. Finalement un bon support pour à l'inverse de Thierry Frémaux. Quelle est votre perception par rapport à ces nouveaux modes de fonctionnement du cinéma, financement, mais en même temps diffusion?
Mais c'est un créneau qui est qui est très pénétrant. C'est-à-dire, je connais beaucoup de gens qui regardent Netflix, et moi-même je regarde Netflix. J'ai vu Roma sur Netflix et j'ai été bouleversé. Donc pour moi, ça marchait. Hein. Ça marchait même sur l'écran, bah, qui est un petit peu grand, mais qui est sur l'écran qui passe par Internet. Il y a un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a des séries formidables et puis il y a des séries très. Où l'écriture, quelque part, la grammaire n'existe plus. Mais ça, c'est vraiment le propre du cinéma et des séries contemporaines. C'est-à-dire, s'il faut les faire plus vite, avec moins d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? On filme à trois caméras en même temps. Et où est-ce qu'on peut mettre les trois caméras? Ben, il ne faut pas qu'elles se filment les unes les autres. Donc, ça ressemble à du champ contre champ, plan large. Et donc, c'est ça. Quelque part, je vois dans beaucoup de séries ou de films que le langage se perd, hein, que la langue cinématographique se
C'est ça.
perd, contrairement à Roma, où vraiment la langue cinématographique est vraiment en avant et affirmée et magnifique. Donc, je pense que c'est un tuyau. Qui a l'avantage qu'il n'est pas bouché, c'est-à-dire que les choses qui y passent sont accessibles.
Ça vous tente?
Je sais pas parce que en fait j'y ai pas pensé. Mais si on n'arrive pas à monter son film de façon classique,
Pourquoi pas?
c'est une très bonne façon de monter un film. Enfin, c'est une façon de monter un film.
Jaco, mais merci et on se retrouve le 2 février.
Oui, merci beaucoup.